Partout où des hommes se réunissent, et dans la petite ville d'eau allemande choisie par les Scherbansky comme ailleurs, il se forme une espèce de cristallisation sociale qui met chacun à sa place. De même qu'une gouttelette d'eau exposée au froid prend invariablement et pour toujours une certaine forme cristalline, de même chaque nouveau baigneur se trouve invariablement fixé au rang qui lui convient dans la société. Fürst Scherbazzi samt Gemahlin und Tochter se cristallisèrent immédiatement à la place qui leur était due, suivant la hiérarchie sociale, de par l'appartement qu'ils occupèrent, leur nom et les relations qu'ils firent. Ce travail de stratification s'était opéré d'autant plus sérieusement cette année qu'une véritable Fürstin allemande honorait les eaux de sa présence. La princesse crut obligée de lui présenter sa fille, et cette cérémonie eut lieu 2 jours après leur arrivée. Kitty, parée d'une toilette très simple, c'est-à-dire très élégante et venue de Paris, fit une profonde et gracieuse révérence à la grande dame. « J'espère, lui fut-il dit, que les roses renaîtront bien vite sur ce joli visage. » Et aussitôt, la famille Scherbansky se trouva closée d'une façon définitive. Ils firent la connaissance d'un lord anglais, de sa famille, d'une greffine allemande et de son fils blessé à la dernière guerre, d'un savant suédois et de M. Canu, ainsi que de sa sœur. Mais la société intime des Scherbansky se forma presque spontanément de baigneurs russes. C'était Marie Evgenievna Ritschev et sa fille, qui déplaisait à Kitty parce qu'elle est aussi été malade d'un amour contrarié, et un colonel moscovite qu'elle avait toujours vu en uniforme et que ses cravates de couleur et son cou découvert lui faisaient trouver souverainement ridicule. Cette société parut d'autant plus insupportable à Kitty qu'on ne pouvait s'en débarrasser. Restée seule avec sa mère après le départ du vieux prince pour Karlsbad, elle chercha, pour se distraire, à observer les personnes inconnues qu'elle rencontrait. Sa nature la portait à voir tout le monde en beau, aussi ses remarques sur les caractères et les situations qu'elle s'amusait à deviner étaient-elles empreintes d'une bienveillance exagérée. Une des personnes qui lui inspirèrent l'intérêt le plus vif fut une jeune fille venue aux eaux avec une dame russe, qu'on nommait Madame Stahl, et qu'on disait apparemment appartenir à une haute noblesse. Cette dame fort malade n'apparaissait que rarement, traînée dans une petite voiture. La princesse assurait qu'elle se tenait à l'écart par orgueil plutôt que par maladie. La jeune fille la soignait, et selon Kitty, elle s'occupait avec le même zèle, simple et naturel, de plusieurs autres personnes sérieusement malades. Madame Stahl donnait sa compagne Varinka, mais Kitty assurait qu'elle ne la traitait ni en parente ni en garde-malade rétribuée. Une irrésistible sympathie entraînait Kitty vers cette jeune fille, et quand leurs regards se rencontraient, elle s'imaginait lui plaire aussi. Mademoiselle Varinka, quoique jeune, semblait manquer de jeunesse. Elle paraissait aussi bien 19 ans que 30. Malgré sa pâleur maladive, on la trouvait jolie en analysant ses traits, et elle aurait passé pour bien faite si sa tête n'eût été trop forte et sa maigreur trop grande. Mais elle ne devait pas plaire aux hommes. Elle faisait penser à une belle fleur qui, tout en conservant ses pétales, serait déjà flétrie et sans parfum. Varinka semblait toujours absorbée par quelques devoirs importants et n'avoir pas de loisir pour s'occuper de choses futiles. L'exemple de cette vie occupée faisait penser à Kitty qu'elle trouverait en l'imitant ce qu'elle cherchait avec douleur. Un intérêt, un sentiment de dignité personnelle qui n'eut plus rien de commun avec ses relations mondaines de jeunes filles à jeunes gens dont la pensée lui paraissait une flétrissure. Plus elle étudiait son amie inconnue, plus elle désirait la connaître, persuadée qu'elle était de trouver en elle une créature parfaite. Les jeunes filles se rencontraient plusieurs fois par jour, et les yeux de Kitty semblaient toujours dire « Mais qui êtes-vous? Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, en vous croyant un être charmant ?» Mais, ajoutait le regard, je n'aurai pas l'indiscrétion de solliciter votre amitié. Je me contente de vous admirer et de vous aimer. Moi aussi, je vous aime et je vous trouve charmante, répondait le regard de l'inconnu, et je vous aimerais plus encore si j'en avais le temps. Et réellement, elle était toujours occupée. Tantôt, c'était les enfants d'une famille russe qu'elle ramenait du bain, tantôt un malade qu'il fallait envelopper d'un plaid, un autre qu'elle s'évertuait à distraire, ou bien encore des pâtisseries qu'elle venait acheter pour l'un ou l'autre de ses protégés. Un matin, bientôt après l'arrivée des Scherbazi, on vit apparaître un couple qui devint l'objet d'une attention peu bienveillante. L'homme était de taille haute et voûtée, avec des mains énormes, les yeux noirs, tout à la fois naïfs et effrayants. Il portait un vieux paletot très court, et la femme était aussi mal mise, mais marquée de petites véroles et d'une physionomie très douce. Kitty les reconnut aussitôt pour des Russes, et déjà son imagination ébauchait un roman touchant, dont ils étaient les héros, lorsque la princesse apprit par la liste des baigneurs que ces nouveaux venus se nommaient Nicolas Lévin et Marie Nikolaïevna. Elle mit fin au roman de sa fille en lui expliquant que ce Lévin était un fort vilain homme. Le fait qu'il fût frère de Constantin Lévin, plus que les paroles de sa mère, rendit ce couple particulièrement désagréable à Kitty. Cet homme, au mouvement de tête bizarre, lui devint odieux, et elle croyait lire dans ses grands yeux, qui la suivaient avec obstination, des sentiments ironiques et malveillants. Elle évitait autant que possible de le rencontrer. La journée étant pluvieuse, Kitty et sa mère se promenaient sous la galerie, accompagné du colonel, jouant à l'élégant dans son petit veston européen, acheté tout fait à Francfort. Il marchait d'un côté de la galerie, cherchant à éviter Nicolas Lévin qui marchait de l'autre. Varinka, en robe foncée, coiffée d'un chapeau noir à bord abattu, promenait une vieille Française aveugle. Chaque fois que Kitty et elle se rencontraient, elles échangeaient un regard amical. Maman, puis-je lui parler? Demanda Kitty en voyant son inconnu approcher de la source et trouvant l'occasion favorable pour l'aborder. Si tu as en grande envie de la connaître, laisse-moi prendre des informations. Mais que trouves-tu de si remarquable en elle? C'est quelque dame de compagnie. « Si tu veux, je ferai la connaissance de Madame Stahl. J'ai connu sa belle-sœur, » ajouta la princesse en relevant la tête avec dignité. Kitty savait que sa mère était froissée de l'attitude de Madame Stahl qui semblait l'éviter. Elle n'insista pas. « Elle est vraiment charmante, » dit-elle en regardant Varinka tendre un verre à la Française. « Voyez comme tout ce qu'elle fait est aimable et simple. »« Oh, tu m'amuses avec tes engouements, » répondit la Princesse. « Mais pour le moment, éloignons-nous, » ajouta-t-elle, en voyant approcher Lévin, sa compagne et un médecin allemand auquel il parlait d'un ton aigu et mécontent. Comme elles revenaient sur leurs pas, elles entendirent un éclat de voix. Lévin était arrêté et gesticulait en criant. Le docteur se fâchait à son tour et l'on faisait cercle autour d'eux. La princesse s'éloigna vivement avec Kitty. Le colonel se mêla à la foule pour connaître l'objet de la discussion. Mais qui avait-il ? Demanda la princesse quand au bout de quelques minutes le colonel les rejoignit. Mais c'est une honte, répondit celui-ci. Rien de pis que de rencontrer des Russes à l'étranger. Ce grand monsieur s'est querellé avec le docteur, lui a grossièrement reproché de ne pas le soigner comme il l'entendait, et a fini par lever son bâton. Mais c'est une honte. Ah, mon Dieu, que c'est pénible, dit la princesse. Et comment tout cela s'est-il terminé? Mais grâce à l'intervention de cette demoiselle en chapeau forme champignon, une russe, je crois. C'est elle qui, la première, s'est trouvée là pour prendre ce monsieur par le bras et l'emmener. Voyez-vous, maman, dit Kitty à sa mère, et vous vous étonnez de mon enthousiasme pour Varinka? Le lendemain, Kitty remarqua que Varinka s'était mise en rapport avec Lévin et sa compagne comme avec ses autres protégés. Elle s'approchait d'eux pour causer et servait d'interprète à la femme qui ne parlait aucune langue étrangère. Kitty supplia encore une fois sa mère de lui permettre de faire sa connaissance. Et quoiqu'il fût désagréable à la princesse d'avoir l'air de faire des avances à Madame Stahl, qui se permettait de faire la fière, édifiée par les renseignements qu'elle avait pris, elle choisit un moment où Kitty était à la source pour aborder Varinka devant la boulangerie. « Permettez-moi de me présenter moi-même, » dit-elle avec un sourire de condescendance. « Ma fille s'est éprise de vous. Peut-être ne me connaissez-vous pas. Je... »« Non, c'est plus que réciproque, princesse, » répondit avec hâte Varinka. « Vous avez fait hier une bonne action par rapport à notre triste compatriote, » dit la princesse. Varinka rougit. « Oh, je ne me rappelle pas, il me semble que je n'ai rien fait, » dit-elle. « Si fait, vous avez sauvé ce Lévin d'une affaire exagréable. Ah oui, sa compagne m'a appelé, j'ai cherché à le calmer. Il est très malade, très mécontent de son médecin. Oh, j'ai l'habitude de soigner ce genre de malade. » Je sais que vous habitez Menton avec votre tante, il me semble, Madame Stahl. J'ai connu sa belle-sœur. Ah, Madame Stahl n'est pas ma tante. Je l'appelle maman, mais je ne le suis pas apparentée. J'ai été élevée par elle, répondit Varinka, en rougissant encore. Tout cela fut dit très simplement, et l'expression de ce charmant visage était si ouverte et si sincère que la princesse comprit pourquoi Varinka plaisait si fort à Kitty. Et que va faire ce Lévin ? Demanda-t-elle. Oh, il part, répondit Varinka. Kitty, revenant de la source, aperçut en ce moment sa mère causant avec son amie. Elle rayonna de joie. Eh bien, Kitty, ton ardent désir de connaître mademoiselle Varinka, dit la jeune fille. C'est ainsi qu'on m'appelle. Kitty rougit de plaisir et serra longtemps en silence la main de sa nouvelle amie, qui la lui abandonna sans répondre à cette pression. En revanche, son visage s'illumina d'un sourire heureux, quoique mélancolique, et découvrit des dents grandes mais belles. Oh, je l'ai désiré depuis longtemps aussi, dit-elle. Mais vous êtes si occupée, moi, au contraire. « Je n'ai rien à faire, » répondit Varinka. Mais au même instant, deux petites Russes, filles d'un malade, accoururent vers elle. « Varinka, maman nous appelle !» crièrent-elles. Et Varinka les suivit. Voici ce que la princesse avait appris du passé de Varinka et de ses relations avec Madame Stahl. Celle-ci, une femme maladive et exaltée, que les uns accusaient d'avoir fait le tourment de la vie de son mari par son inconduite, tandis que d'autres accusaient son mari de l'avoir rendue malheureuse, avait, après s'être séparée de ce mari, mis au monde un enfant qui était mort aussitôt né. La famille de Madame Stahl, connaissant sa sensibilité et craignant que cette nouvelle ne la tuât, avait substitué à l'enfant mort la fille d'un cuisinier de la cour, née la même nuit dans la même maison de Pétersbourg. C'était Varinka. Madame Stahl apprit par la suite que la petite n'était pas sa fille, mais continua à s'en occuper, d'autant plus que la mort des vrais parents de l'enfant la rendit bientôt orpheline. Depuis plus de 10 ans, Madame Stahl vivait à l'étranger, dans le Midi, sans presque quitter son lit. Les uns disaient qu'elle s'était fait dans le monde un piédestal de sa charité et de sa haute piété. D'autres voyaient en elle un être supérieur d'une grande élévation morale et assuraient qu'elle ne vivait que pour les bonnes œuvres. En un mot, qu'elle était bien réellement ce qu'elle semblait être. Personne ne savait si elle était catholique, protestante ou orthodoxe. Ce qui était certain, c'est qu'elle entretenait de bonnes relations avec les sommités de toutes les églises et de toutes les confessions. Varinka vivait toujours auprès d'elle, et tous ceux qui connaissaient Madame Stahl la connaissaient aussi. Kitty s'attacha de plus en plus à son amie, et chaque jour lui découvrait quelques nouvelles qualités. La princesse, ayant appris que Varinka chantait, la pria de venir les voir un soir. Kitty joua du piano, et quoique l'instrument soit mauvais, nous aurions grand plaisir à vous entendre, dit la princesse, avec un sourire forcé qui déplut à Kitty, à laquelle le peu de désir qu'avait Varinka de chanter n'échappait pas. Elle vint cependant le même soir et apporta de la musique. La princesse invita Marie Evgenievna, sa fille, et le colonel. Varinka sembla indifférente à la présence de ces personnes étrangères pour elle et s'approcha du piano sans se faire prier. Elle ne savait pas s'accompagner, mais lisait parfaitement la musique. Kitty jouait bien du piano et l'accompagna. Vous avez un talent remarquable, dit la princesse après le premier morceau que Varinka chanta avec goût. Marie Evgenievna et sa fille joignirent leurs compliments et leurs remerciements à ceux de la princesse. Voyez donc le public que vous avez attiré, dit le colonel qui regardait par la fenêtre. Il s'était effectivement rassemblé un assez grand nombre de personnes près de la maison. Je suis enchanté de vous avoir fait plaisir, répondit simplement Varinka. Kitty regardait son amie avec orgueil. Elle était dans l'admiration de son talent, de sa voix, de toute sa personne, mais plus encore de sa tenue. Il était clair que Varinka ne se faisait aucun mérite de son chant et restait fort indifférente aux compliments. Elle avait simplement l'air de se demander « Faut-il chanter encore ou non ?»« Si j'étais à sa place, pensait Kitty, combien je serais fière, comme je serais contente de voir cette foule sous la fenêtre. Et cela lui est absolument égal. » Elle ne paraît sensible qu'au plaisir d'être agréable à maman. Mais qu'y a-t-il en elle? Qu'est-ce qui lui donne cette force d'indifférence, ce calme indépendant? Ah, combien je voudrais la prendre d'elle, se disait Kitty en observant ce visage tranquille. La princesse demanda un second morceau, et Varinka le chanta aussi bien que le premier, avec le même soin et la même perfection, toute droite près du piano et battant la mesure de sa petite main brune. Le morceau suivant dans le cahier était un air italien. Kitty joua le prélude et se tourna vers la chanteuse. « Non, passons celui-là, » dit Varinka en rougissant. Kitty, tout émue, fixa sur elle des yeux questionneurs. « Alors un autre, » se hâta-t-elle de dire en tournant les pages, comprenant que cet air devait rappeler à son ami quelques souvenirs pénibles. « Ah non, » répondit Varinka en mettant tout en souriant la main sur le cahier, « chantons-le. » Et elle chanta aussi tranquillement et aussi froidement qu'auparavant. Quand elle eut fini, chacun la remercia encore, et on sortit du salon pour prendre le thé. Kitty et Varinka descendirent au petit jardin attenant à la maison. Vous attachez un souvenir à ce morceau, n'est-ce pas ? Dit Kitty. Ne répondez pas, dites seulement « c'est vrai ». Pourquoi ne vous le dirais-je pas tout simplement ? Oui, c'est un souvenir, dit tranquillement Varinka, et il a été douloureux. J'ai aimé quelqu'un à qui je chantais cet air. Kitty, les yeux grands ouverts, regardait humblement Varinka sans parler. Je l'ai aimé et il m'a aimé aussi. Mais sa mère s'est opposée à notre mariage et il en a épousé une autre. Maintenant, il ne demeure pas trop loin de chez nous et je le vois quelquefois. Vous ne pensiez pas que j'avais mon roman ? Et son visage parut éclairé comme toute sa personne avait dû l'être autrefois, pensa Kitty. Comment ne l'aurais-je pas pensé ? Si j'étais homme, je n'aurais pu aimer personne après vous avoir rencontré. Ce que je ne conçois pas, c'est qu'il ait pu vous oublier et vous rendre malheureuse pour obéir à sa mère. Il ne devait pas avoir de cœur. Oh, au contraire, c'est un homme excellent, et quant à moi, je ne suis pas malheureuse. Eh bien, ne chanterons-nous plus aujourd'hui ? Ajouta-t-elle en se dirigeant vers la maison. Ah, mais que vous êtes bonne, mais que vous êtes bonne ! S'écria Kitty en l'arrêtant pour l'embrasser. Si je pouvais vous ressembler un peu. Mais pourquoi ? Ressembleriez-vous à une autre qu'à vous-même ? Restez donc ce que vous êtes, dit Varinka en souriant de son sourire doux et fatigué. Non, je ne suis pas bonne du tout. Voyons, dites-moi. Attendez, asseyons-nous un peu, dit Kitty en la faisant rasseoir sur un banc près d'elle. Dites-moi, comment peut-il n'être pas blessant de penser qu'un homme a méprisé votre amour, qu'il l'a repoussé ? Oh non, il n'a rien méprisé. Je suis sûr qu'il m'a aimé, mais c'était un fils soumis. Et s'il n'avait pas ainsi agi pour obéir à sa mère ? Si de son plein gré, dit Kitty, sentant qu'elle dévoilait son secret et que son visage tout brûlant de rougeur la trahissait. Oh, dans ce cas, il aurait mal agi et je ne le regretterai plus, répondit Varinka, comprenant qu'il n'était plus question d'elle, mais de Kitty. Et l'insulte, dit Kitty, peut-on l'oublier ? C'est impossible, dit-elle en se rappelant son regard au dernier bal lorsque la musique s'était arrêtée. Quelle insulte ? Vous n'avez rien fait de mal. Pis que cela, je me suis humilié. Varinka secoua la tête et posa sa main sur celle de Kitty. Et en quoi vous êtes-vous humilié ? Vous n'avez pu dire à un homme qui vous témoignait de l'indifférence que vous l'aimiez ? Bon, certainement non. Je n'ai jamais dit un mot, mais il le savait. Il y a des regards, des manières d'être. Ah, non, non, je vivrai 100 ans que je ne l'oublierai pas. Mais alors, je ne comprends plus. Il s'agit seulement de savoir si vous l'aimez encore ou non, dit Varinka, qui appelait les choses par leur nom. Je le hais, je ne puis me pardonner. Eh bien, mais la honte, l'affront. Oh, mon Dieu ! Si tout le monde était sensible comme vous, il n'y a pas de jeune fille qui n'ait éprouvé quelque chose d'analogue. Tout cela est si peu important. Et qu'y a-t-il donc d'important ? Demanda Kitty, la regardant avec une curiosité étonnée. Oh, bien des choses, répondit Varinka en souriant. Mais encore... Il y a beaucoup de choses plus importantes, répondit Varinka, ne cherchant trop que dire. En ce moment, la princesse cria par la fenêtre. « Kitty, il fait frais, mais un châle où rentre ?»« Il est temps de partir, » dit Varinka en se levant. « Je dois entrer chez Mademoiselle Berthe, elle m'en a prié. » Kitty la tenait par la main et l'interrogeait du regard avec une curiosité passionnée, presque suppliante. « Quoi? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui donne le calme? Vous le savez, dites-le-moi. » Mais Varinka ne comprenait même pas ce que demandaient les regards de Kitty. Elle se rappelait seulement qu'il fallait encore entrer chez Mademoiselle Berthe et se trouver à la maison pour le thé de maman à minuit. Elle rentra dans la chambre, rassembla sa musique, et ayant pris congé de chacun, voulut partir. « Permettez, je vous reconduirai, » dit le colonel. Oh, « Certainement, comment rentrer seule la nuit ?» dit la princesse. « Je vous donnerai au moins la femme de chambre. » Kitty s'aperçut que Varinka dissimulait avec peine un sourire, à l'idée qu'on voulait l'accompagner. « Oh non, je rentre toujours seule, et jamais il ne m'arrive rien, » dit-elle en prenant son chapeau. Et embrassant encore une fois Kitty, sans lui dire ce qui était important, elle s'éloigna d'un pas ferme, sa musique sous le bras, et disparut dans la demi-obscurité d'une nuit d'été, emportant avec elle le secret de sa dignité et de son enviable tranquillité. Kitty fit la connaissance de Madame Stahl, et ses relations avec cette dame de Varinka eurent sur elle une influence qui contribua à calmer son chagrin. Elle apprit qu'en dehors de la vie instinctive qui avait été la sienne, il existait une vie spirituelle dans laquelle on pénétrait par la religion, mais une religion qui ne ressemblait en rien à celle que Kitty avait pratiquée depuis l'enfance et qui consistait à aller à la messe et aux vêpres, à la maison des veuves où le rencontrer des connaissances et à apprendre par cœur des textes slavons avec un prêtre de la paroisse. C'était une religion élevée, mystique, liée aux sentiments les plus purs et à laquelle on croyait, non par devoir, mais par amour. Kitty apprit tout cela autrement qu'en paroles. Madame Stahl lui parlait comme une aimable enfant qu'on admire, ainsi qu'un souvenir de jeunesse, et ne fit allusion qu'une seule fois aux consolations qu'apportent la foi et l'amour aux douleurs humaines, ajoutant que le Christ compatissant n'en connaît pas d'insignifiante. Puis aussitôt elle changea de conversation, mais dans chacun des gestes de cette dame, dans ses regards célestes, comme les appelait Kitty, dans ses paroles et surtout dans son histoire qu'elle connaissait par Varinka, Kitty découvrait ce qui était important et ce qu'elle avait ignoré jusque-là. Cependant, quelle que fût l'élévation de nature de Madame de Stahl, quelque touchante que fût son histoire, Kitty remarquait involontairement certains traits de caractère qui l'affligeaient. Un jour, par exemple, qu'il fut question de sa famille, Madame Stahl sourit dédaigneusement. C'était contraire à la charité chrétienne. Une autre fois, Kitty remarqua, en rentrant chez elle un ecclésiastique catholique, que Madame Stahl tenait son visage soigneusement dans l'ombre d'un abat-jour et souriait d'une façon singulière. Ces deux observations, bien que fort insignifiantes, lui causèrent une certaine peine et la firent douter de Madame Stahl. Varinka, en revanche, seule, sans famille, sans amis, n'espérant rien, ne regrettant rien après sa triste déception, lui semblait une perfection. C'était par Varinka qu'elle apprenait qu'il fallait s'oublier, aimer son prochain, pour devenir heureuse, tranquille et bonne, ainsi qu'elle voulait l'être. Et une fois qu'elle l'eut compris, Kitty ne se contenta plus d'admirer, mais se donna de tout son cœur à la vie nouvelle qui souffrait devant elle. D'après les récits que Varinka lui fit sur Madame Stahl et d'autres personnes qu'elle lui nomma, Kitty se traça un plan d'existence. Elle décida que, à l'exemple d'Aline, la nièce de Madame Stahl, dont Varinka l'entretenait souvent, elle rechercherait les pauvres, n'importe où elle se trouverait, qu'elle les aiderait de son mieux, qu'elle distribuerait des évangiles, lirait le Nouveau Testament aux malades, aux mourants, aux criminels. Cette dernière idée la séduisait particulièrement, mais elle faisait ses rêves en secret, sans les communiquer à sa mère ni même à son amie. Au reste, en attendant le moment d'exécuter ses plans sur une échelle plus vaste, il ne fut pas difficile à Kitty de mettre ses nouveaux principes en pratique. Aux eaux, les malades et les malheureux ne manquent pas. Elle fit comme Varinka. La princesse remarqua bien vite combien Kitty était sous l'influence de ses engouements, comme elle appelait Madame Stahl et surtout Varinka, que Kitty imitait non seulement dans ses bonnes œuvres, mais presque dans sa façon de marcher, de parler, de cligner des yeux. Plus tard, elle reconnut que sa fille passait par une certaine crise intérieure indépendante de l'influence exercée par ses amis. Kitty lisait le soir un évangile français prêté par Madame Stahl, ce que jamais elle n'avait fait jusque-là. Elle évitait toute relation mondaine, s'occupait des malades protégés par Varinka, et particulièrement de la famille d'un pauvre peintre malade nommé Petrov. La jeune fille semblait fière de remplir dans cette famille les fonctions de sœur de charité. La princesse n'y voyait aucun inconvénient, et s'y opposait d'autant moins que la femme de Petrov était une personne très convenable, et qu'un jour la Fürstin, remarquant la beauté de Kitty, en avait fait l'éloge, l'appelant un ange consolateur. Tout aurait été pour le mieux si la princesse n'avait redouté l'exagération dans laquelle sa fille risquait de tomber. « Il ne faut rien outrer !» lui disait-elle en français. La jeune fille ne répondait pas, mais elle se demandait dans le fond de son cœur si, en fait de charité, on peut jamais dépasser la mesure dans une religion qui enseigne à tendre la joue gauche lorsque la droite a été frappée et à partager son manteau avec son prochain. Mais ce qui peinait la princesse, plus encore que cette tendance à l'exagération, c'était de sentir que Kitty ne lui ouvrait pas complètement son cœur. Le fait est que Kitty faisait un secret à sa mère de ses nouveaux sentiments, dont elle manqua d'affection ou de respect pour elle, mais simplement parce qu'elle était sa mère et qu'il lui eût été plus facile de s'ouvrir à une étrangère qu'à elle. « Il me semble qu'il y a quelque temps que nous n'avons vu Anna Pavlovna, » dit un jour la princesse en parlant de Madame Petrov. « Je l'ai invitée à venir, mais elle m'a semblé contrariée. »« Je n'ai pas remarqué cela, maman, » répondit Kitty en rougissant subitement. « Tu n'as pas été chez elle ces jours-ci ?»« Oh, nous projetons pour demain une promenade dans la montagne, » dit Kitty. « Oh, je n'y vois pas d'obstacle, » répondit la princesse, remarquant le trouble de sa fille et cherchant à en deviner la cause. Varinka vint dîner le même jour et annonçait qu'Anna Pavlovna renonçait à l'excursion projetée pour le lendemain. La princesse s'aperçut que Kitty rougissait encore. « Mais Kitty, ne s'est-il rien passé de désagréable entre toi et Petrov ?» lui demanda-t-elle quand elles se retrouvèrent seules. « Pourquoi ont-ils cessé d'envoyer les enfants et de venir eux-mêmes ?»« Kitty répondit qu'il ne s'était rien passé et qu'elle ne comprenait pas pourquoi Anna Petrovna semblait lui en vouloir. Et elle disait vrai. Mais si elle ne connaissait pas les causes du changement survenu en Madame Petrov, elle les devinait. » Et devinait aussi une chose qu'elle n'osait pas avouer à elle-même encore moins à sa mère, tant il aurait été humiliant et pénible de se tromper. Tous les souvenirs de ses relations avec cette famille lui revenaient les uns après les autres. Elle se rappelait la joie naïve qui se peignait sur le bon visage tout rond d'Anna Pavlovna à leur première rencontre, leur conciliabule secret pour arriver à distraire le malade, à le détacher d'un travail qui lui était défendu, à l'emmener promener, l'attachement du plus jeune des enfants qu'il appelait « Ma Kitty » et ne pouvait pas aller se coucher sans elle. Comme tout allait bien alors. Puis elle se rappela la maigre personne de Petrov, son long cou sortant de sa redingote brune, ses cheveux rares et frisés, ses yeux bleus avec le regard interrogateur dont elle avait eu peur d'abord, ses efforts maladifs pour paraître animée et énergique quand elle était près de lui. Elle se souvint de la peine qu'elle avait eue à vaincre la répugnance qu'il lui inspirait, ainsi que toutes les poitrinaires du mal qu'elle se donnait pour trouver un sujet de conversation. Elle se souvint du regard humble et craintif du malade quand il la regardait, de l'étrange sentiment de compassion et de gêne éprouvé au début, puis remplacé par celui du contentement d'elle-même et de sa charité. Tout cela n'avait pas duré longtemps, et depuis quelques jours, il était survenu un brusque changement. Anna Pavlovna n'abordait plus Kitty qu'avec une amabilité feinte et surveillait sans cesse son mari. Pouvait-il être possible que la joie touchante du malade à son approche fût la cause du refroidissement d'Anna Pavlovna ? Oui, se dit-elle. Il y avait quelque chose de peu naturel et qui ne ressemblait en rien à sa bonté ordinaire. Dans la façon dont Anna Pavlovna m'a dit avant-hier d'un air contrarié, « Eh bien, voilà qu'il n'a pas voulu prendre son café sans vous, et il vous a attendu, quoiqu'il fût très affaibli. Peut-être lui ai-je été désagréable quand je lui ai offert le plaid. C'était pourtant bien simple, mais Petrov a pris ce petit service d'une façon étrange, et m'a tant remercié que j'en étais mal à l'aise. Et ce portrait de moi qu'il a si bien réussi, mais surtout ce regard triste et tendre. Oui, oui, c'est bien cela, se répéta Kitty avec effroi. Mais cela ne peut être, ne doit pas être. Il est si digne de pitié, ajouta-t-elle antérieurement. Ses craintes empoisonnaient le charme de sa nouvelle vie. Le prince Cherbatsky vint rejoindre les siens avant la fin de la cure. Il avait été de son côté à Karlsbad, puis à Baden et à Kelsingen, pour y retrouver ses compatriotes et, comme il disait, recueillir un peu d'air russe. Le prince et la princesse avaient des idées fort opposées sur la vie à l'étranger. La princesse trouvait tout parfait et, malgré sa position bien établie dans la société russe, jouait à la dame européenne. Ce qui ne lui allait pas, car c'était une dame russe par excellence. Quant au prince, il trouvait au contraire tout détestable, la vie européenne insupportable, tenait à ses habitudes russes avec exagération et cherchait à se montrer moins européen qu'il ne l'était en réalité. Le prince revint maigri avec des poches sous les yeux, mais plein d'entrain, et cette heureuse disposition d'esprit ne fit qu'augmenter quand il trouva Kitty en voie de guérison. Les détails que lui avait donnés la princesse sur l'intimité de Kitty avec Madame Stahl et Varinka et ses remarques sur la transformation morale que subissait leur fille avaient attristé le prince et réveillé en lui le sentiment habituel de jalousie qu'il éprouvait pour tout ce qui pouvait soustraire Kitty à son influence en l'entraînant dans des régions inabordables pour lui. Mais ces fâcheuses nouvelles se noyèrent dans l'océan de bonne humeur et de gaieté qu'il rapportait de Karlsbad. Le lendemain de son arrivée, Le prince, vêtu de son long paletot, ses joues un peu bouffies et couvertes de rides, encadrées dans un faux col empesé, alla à la source avec sa fille. Il était de la plus belle humeur du monde. Le temps était splendide. La vue de ces maisons gaies et proprettes, entourées de petits jardins, des servantes allemandes à l'ouvrage avec leurs bras rouges et leurs figures bien nourries, le soleil resplendissant, tout réjouissait le cœur. Mais plus on approchait de la source, plus on rencontrait de malades, dont l'aspect lamentable contrastait péniblement avec ce qui les entourait dans ce milieu germanique si bien ordonné. Pour Kitty, cette belle verdure et les sons joyeux de la musique formaient un cadre naturel à ses visages connus, dont elle suivait les transformations bonnes ou mauvaises. Mais pour le prince, il y avait quelque chose de cruel à l'opposition de cette lumineuse matinée de juin, de l'orchestre jouant gaiement la valse à la mode, et de ces moribonds venus des quatre coins de l'Europe et se traînant là languissamment. Malgré le retour de jeunesse qu'éprouvait le prince et son orgueil quand il tenait sa fille favorite sous le bras, il se sentait heureux, honteux et gêné de sa démarche ferme et de ses membres vigoureux. En face de toutes ses misères, il éprouvait le sentiment d'un homme déshabillé devant du monde. « Présente-moi à tes nouveaux amis, » dit-il à sa fille en lui serrant le bras du coude. « Je me suis mis à aimer ton affreux Soden pour le bien qu'il t'a fait. Mais vous avez ici bien des tristesses. Qui est-ce ?» Et Kitty lui nomma les personnes de leur connaissance. À l'entrée du jardin, ils rencontrèrent Mademoiselle Berthe avec sa conductrice, et le prince eut plaisir à voir l'expression de joie qui se peignit sur le visage de la vieille femme au son de la voix de Kitty. Avec l'exagération d'une Française, elle se répandit en politesse et félicita le prince d'avoir une fille si charmante, dont elle éleva le mérite au nu, la déclarant un trésor, une perle, un ange consolateur. Ah, dans ce cas, c'est l'ange numéro 2, dit le prince en souriant, car elle assure que Mademoiselle Varlinka est l'ange numéro 1. Oh oui, Mademoiselle Varlinka est vraiment un ange, allez, assura vivement Mademoiselle Berthe. Ils rencontrèrent Varlinka elle-même dans la galerie. Elle vint à eux avec hâte, portant un élégant sac rouge à la main. Voilà papa arrivé, lui dit Kitty. Varlinka fit un salut simple et naturel qui ressemblait à une révérence et entama la conversation avec le prince sans fausse timidité. Oh, il faut sans dire que je vous connais et beaucoup, lui dit le prince en souriant d'un air qui prouva à Kitty, à sa grande joie, que son ami plaisait à son père. Où allez-vous si vite? Oh, maman est ici, répondit la jeune fille en se tournant vers Kitty. Elle n'a pas dormi de la nuit et le docteur lui a conseillé de prendre l'air. Je lui porte son ouvrage. Ah, voilà donc l'ange numéro 1, dit le prince, quand Varlinka se fut éloignée. Kitty s'aperçut qu'il avait envie de la plaisanter sur son habit, mais qu'il était retenu par l'impression favorable qu'elle lui avait produite. Eh bien, nous allons les laisser voir tous les uns après les autres, tes amis, même Madame Stahl, si elle daigne me reconnaître. Tu la connais donc, papa ? Demanda Kitty avec crainte, en remarquant un éclair ironique dans les yeux de son père. Oh oui, j'ai connu son mari, et je l'ai un peu connue elle-même, avant qu'elle se fût enrôlée dans les piétistes. Qu'est-ce que c'est, piétiste, papa ? Demanda Kitty, inquiète de voir donner un nom à ce qui lui paraissait d'une si haute valeur en Madame Stahl. « Oh, oh, on sait trop rien. Ce que je sais, c'est qu'elle remercie Dieu de tous les malheurs qui lui arrivent, y compris celui d'avoir perdu son mari. Et cela tourne au comique quand on sait qu'ils vivaient fort mal ensemble. Qui est-ce ? Quelle pauvre figure! Demanda-t-il en voyant un malade en redingote brune, avec un pantalon blanc formant d'étranges plis sur ses jambes amaigries. Ce monsieur avait soulevé son chapeau de paille et découvert un front élevé que la pression du chapeau avait rougi et qu'entourait de rares cheveux frisottants. Ah, c'est Petrov, un peintre, répondit Kitty en rougissant. Et voilà sa femme, ajouta-t-elle en montrant Anna Pavlovna, qui à leur approche s'était levée pour courir après un des enfants sur la route. Pauvre garçon, il a une charmante physionomie. Pourquoi ne t'es-tu pas approché de lui? Il semblait vouloir te parler. Retournons vers lui, dit Kitty en marchant résolument vers Petrov. Comment allez-vous aujourd'hui? Lui demanda-t-elle. Celui-ci se leva en s'appuyant sur sa canne et regarda timidement le prince. C'est ma fille, dit le prince. Permettez-moi de faire votre connaissance. Le peintre salua et sourit, découvrant ainsi des dents d'une blancheur étrange. Nous vous attendions hier, princesse, dit-il à Kitty. Il trébucha en parlant, mais pour ne pas laisser croire que c'était involontaire, il refit le même mouvement. Je comptais venir, mais Varinka m'a dit qu'Anna Pavlovna avait renoncé à sortir. Comment cela? Dit Petrov ému, et commençant aussitôt à tousser en cherchant sa femme du regard. Annette, Annette, appela-t-il à haute voix, tandis que de grosses veines sillonnaient comme des cordes son pauvre cou blanc et mince. Anna Pavlovna approcha. Comment se fait-il que tu aies envoyé dire que nous ne nous sortirions pas? Demanda-t-il à voix basse, d'un ton irrité, car il s'enrouait facilement. Bonjour, princesse, dit Anna Pavlovna, avec un sourire contraint qui ne ressemblait en rien à son accueil d'autrefois. Enchanté de faire votre connaissance, ajouta-t-elle en se tournant vers le prince. On vous attendait depuis longtemps. « Mais comment as-tu fait dire que nous ne sortirions pas ?» murmura de nouveau la voix éteinte du peintre, que l'impuissance d'exprimer ce qu'il sentait irritait doublement. « Mon Dieu, j'ai simplement cru que nous ne sortirions pas, » dit sa femme d'un air contrarié. « Pourquoi? Quand cela ?» Il fut pris d'une canne de toux et fit de la main un geste désolé. Le prince souleva son chapeau et s'éloigna avec sa fille. « Ah, les pauvres gens !» dit-il en soupirant. « C'est vrai, papa, » répondit Kitty, « et ils ont trois enfants, pas de domestique et aucune ressource pécuniaire. Il reçoit quelque chose de l'académie, » continua-t-elle avec animation pour tâcher de dissimuler l'émotion que lui causait le changement d'Anna Pavlovna à son égard. « Ah, voilà Madame Stahl, » dit Kitty, en montrant une petite voiture dans laquelle était étendue une forme humaine, enveloppée de gris et de bleu, entourée d'oreillers et abritée par une ombrelle. Derrière la malade se tenait son conducteur, un Allemand bourru et bien portant. À côté d'elle, marchait un comte suédois à chevelure blonde que Kitty connaissait de vue. Quelques personnes s'étaient arrêtées près de la petite voiture et considéraient cette dame comme une chose curieuse. Le prince s'approcha. Kitty remarqua aussitôt dans son regard cette pointe d'ironie qui la troublait. Il adressa la parole à Madame Stahl dans ce français excellent que si peu de personnes parlent de nos jours en Russie, et se montra extrêmement aimable et poli. Je ne sais si vous vous souvenez encore de moi, mais c'est mon devoir de me rappeler à votre souvenir, pour vous remercier de votre bonté pour ma fille, dit-il en ôtant son chapeau sans le remettre. Ah, le prince Alexandre Chtcherbatsky, dit Madame Stahl en levant sur lui ses yeux célestes, dans lesquels Kitty remarqua une ombre de mécontentement. Enchanté de vous voir, j'aime tant votre fille. Votre santé n'est toujours pas bonne? Oh, j'y suis faite maintenant, répondit Madame Stahl, et elle présenta le comte suédois. Vous êtes bien peu changé depuis les 10 ou 12 ans que je n'ai eu l'honneur de vous voir. Oh, oui, Dieu qui donne la croix donne aussi la force de la porter. Ah, je me demande pourquoi seulement une vie semblable se prolonge. Pas ainsi, dit-elle d'un air contrarié à Varinka, qui l'enveloppait d'un plaid sans parvenir à la satisfaire. Pour faire le bien, sans doute, dit le prince dont les yeux riaient. Ne nous appartient pas de juger, répondit Madame Stahl, qui surprit cette nuance d'ironie dans la physionomie du prince. Envoyez-moi donc ce livre, cher comte. Je vous en remercie infiniment d'avance, dit-elle en se tournant vers le jeune Suédois. Ah! s'écria le prince qui venait d'apercevoir le colonel de Moscou, et saluant Madame Stahl, il alla le rejoindre avec sa fille. Voilà notre aristocratie, prince, dit le colonel avec une intention railleuse, car lui aussi était piqué de l'attitude de Madame Stahl. Toujours la même, répondit le prince. L'avez-vous connue avant sa maladie, c'est-à-dire avant qu'elle fût infirme? Oui, je l'ai connue au moment où elle a perdu l'usage de ses jambes. On prétend qu'il y a 10 ans qu'elle ne marche plus. Elle ne marche pas parce qu'elle a une jambe plus courte que l'autre. Elle est très mal faite. Mais c'est impossible, papa, s'écria Kitty. Oh, les mauvaises langues l'assurent, ma chérie. Et ton ami Varinka doit en voir de toutes les couleurs. Oh, ces dames malades. Oh non, papa, je t'assure, Varinka l'adore, affirma vivement Kitty. Et elle fait tant de bien. Demande à qui tu voudras. Tout le monde la connaît, ainsi que sa nièce Aline. C'est possible, répondit son père en lui serrant doucement le bras. Mais il vaudrait mieux que personne ne sût le bien qu'elles font. Kitty se tut, non qu'elle fût sans réponse, mais parce que ses pensées secrètes ne pouvaient même pas être révélées à son père. Chose étrange cependant, quelque décidée qu'elle fût à ne pas se soumettre au jugement de son père, à ne pas le laisser pénétrer dans le sanctuaire de ses réflexions, elle sentait bien que l'image de sainteté idéale qu'elle portait dans l'âme depuis un mois venait de s'effacer sans retour, comme ces formes que l'imagination aperçoit dans des vêtements jetés au hasard et qui disparaissent elles-mêmes quand on se rend compte de la façon dont ils ont été jetés. Elle ne conserva plus que l'image d'une femme boiteuse qui restait couchée pour cacher sa difformité et qui tourmentait la pauvre Varinka pour un plaid mal arrangé. Il lui devint impossible de retrouver dans sa pensée l'ancienne Madame Stahl. L'entrain et la bonne humeur du prince se communiquaient à tout son entourage. Le propriétaire de la maison lui-même n'y échappait pas. En rentrant de sa promenade avec Kitty, le prince invita le colonel, Marie-Evgueniévna, sa fille et Varinka à prendre le café et fit dresser la table sous les marronniers du jardin. Les domestiques s'animèrent aussi bien que le propriétaire sous l'influence de cette gaieté communicative, d'autant plus que la générosité du prince était bien connue. Aussi, une demi-heure après, cette joyeuse société russe, réunie sous les arbres, fit-elle l'envie du médecin malade qui habitait le premier. Il contemplait en soupirant ce groupe heureux de gens bien portants. La princesse, un bonnet à ruban lilas posé sur le sommet de sa tête, présidait à la table couverte d'une nappe très blanche, sur laquelle on avait placé la cafetière, du pain, du beurre, du fromage et du gibier froid. Elle distribuait les tasses et les tartines, tandis que le prince, à l'autre bout de la table, mangeait de bon appétit en causant gaiement. Il avait étalé autour de lui toutes ses emplettes de boîtes sculptées, couteaux à papier, jeux de hochets, etc., rapportés de toutes les zones où il revenait, et il s'amusait à distribuer ces objets à chacun, sans oublier Lichen, la servante, et le maître de la maison. Il tenait à celui-ci les discours les plus comiques dans son mauvais allemand, et lui assurait que ce n'étaient pas les eaux qui avaient guéri Kitty, mais bien son excellente cuisine, et notamment ses potages aux pruneaux. La princesse plaisantait son mari sur ses manières russes, mais jamais depuis qu'elle était aux eaux elle n'avait été si gaie et si animée. Le colonel souriait comme toujours des plaisanteries du prince, mais il était de l'avis de la princesse quant à la question européenne qu'il s'imaginait étudier avec soin. La bonne Marie Evgueniévna y est aux larmes, et Varinka elle-même, au grand étonnement de Kitty, était gagnée par la gaieté générale. Kitty ne pouvait se défendre d'une certaine agitation intérieure. Sans le vouloir, son père avait posé devant elle un problème qu'elle ne pouvait résoudre en jugeant, comme il l'avait fait, ses amis et cette vie nouvelle qui lui offrait tant d'attrait. À ce problème se joignait pour elle celui du changement de relation avec les Petrov, qui lui avait paru ce jour-là plus évident encore et plus désagréable. Son agitation augmentait en les voyant tous si gais, et elle éprouvait le même sentiment que lorsque, petite fille, on la punissait et qu'elle entendait de sa chambre les rires de ses sœurs sans pouvoir y prendre part. « Mais dans quel but as-tu bien pu acheter ce tas de choses ?» demanda la princesse en souriant à son mari et lui offrant une tasse de café. Oh, que veux-tu, on va se promener, on s'approche d'une boutique, on est aussitôt accosté. Erlost, excellente, Durslost, oh, quand on en venait à Durslost, oh, je ne me résistais plus, et mes 10 thalers y passaient. C'était uniquement par ennui, dit la princesse. Certainement, ma chère, car l'ennui est tel qu'on ne sait où se fourrer. Mais comment peut-on s'ennuyer? Il y a tant de choses à voir en Allemagne maintenant, dit Marie Evgueniévna. Je sais tout ce qu'il y a d'intéressant maintenant. Je connais la soupe aux pruneaux, le saucisson de pois, je connais tout. « Mais vous avez beau dire, prince, leurs institutions sont intéressantes, » dit le colonel. « Eh quoi? Ils sont heureux comme des sous-neufs. Ils ont vaincu le monde entier. Qu'y a-t-il là de satisfaisant pour moi? Je n'ai vaincu personne, moi. Et en revanche, il me faut ôter mes bottes moi-même, et qui pisait, les poser moi-même à ma porte dans le couloir. » Le matin, à peine levé, il faut m'habiller et aller boire au salon un thé exécrable. Ce n'est pas comme chez nous. Là, nous avons le droit de nous éveiller à notre heure. Si nous sommes de mauvaise humeur, nous avons celui de grenier. On attend pour tout et l'on pèse ses petites affaires, sans hâte inutile. Mais le temps, c'est l'argent, n'oubliez pas cela, dit le colonel. Oh, cela dépend. Il y a des mois entiers qu'on donnerait pour 50 kopecks et des quarts d'heure qu'on ne céderait pour aucun trésor. Est-ce vrai, Katinka? Mais pourquoi parais-tu ennuyée?
Je n'ai rien, papa.
Où allez-vous rester encore un peu? Dit le prince en s'adressant à Varinka.
Oui, il faut que je rentre, dit Varinka, prise d'un nouvel accès de gaieté.
Quand elle se fut calmée, elle prit congé de la société et chercha son chapeau. Kitty la suivit. Varinka elle-même lui semblait changée. Elle n'était pas moins bonne, mais elle était autre qu'elle l'avait imaginée.
« Il y a longtemps que je n'ai autant ri, » dit Varinka, en cherchant son ombrelle et son sac. « Que votre père est charmant !» Titi se tut. « Quand nous reverrons-nous ? » demanda Varinka. « Maman, vous voulez entrer chez les Petrov. Y serez-vous ? » demanda Kitty pour scruter la pensée de son amie. « Oh, j'y serai, oui, répondit-elle. Ils comptent partir et j'ai promis de les aider à emballer. Eh bien, j'irai aussi. Non, pourquoi faire ? Pourquoi ? Dit Kitty en arrêtant Varinka par son parasol et en ouvrant de grands yeux. Attendez un moment et dites-moi pourquoi. Mais parce que vous avez votre père et qu'il se gêne avec vous. Non, ce n'est pas cela. Dites-moi pourquoi vous ne voulez pas que j'aille souvent chez les Petrov, car vous ne le voulez pas. Je n'ai pas dit cela, répondit tranquillement Varinka. Je vous en prie, répondez-moi. Faut-il tout vous dire ? Tout, s'écria Kitty. Oh, il n'y a rien de bien grave. Seulement Petrov consentait autrefois à partir aussitôt sa cure achevée, et il ne le veut plus maintenant, répondit en souriant Varinka. Eh bien, demanda encore Kitty vivement d'un air sombre. Eh bien, Anna Pavlovna a prétendu que s'il ne voulait plus partir, c'était parce que vous restiez ici. C'était maladroit, mais vous avez ainsi été la cause d'une querelle de ménage, et vous savez combien les malades sont facilement irritables. Kitty, toujours sombre, gardait le silence, et Varinka parlait seule, cherchant à l'adoucir et à la calmer, tout en prévoyant un éclat prochain de larmes ou de reproches. « C'est pourquoi mieux vaut n'y pas aller, vous comprenez. Il ne faut pas vous fâcher. »« Oh, je n'ai que ce que je mérite, » dit vivement Kitty en s'emparant de l'ombrelle de Varinka, sans regarder son amie. Celle-ci, en voyant cette colère enfantine, retint un sourire pour ne pas froisser Kitty. « Comment vous n'avez que ce que vous méritez ? Je ne comprends pas. » « Parce que tout cela n'était qu'hypocrisie, que rien ne venait du cœur. Qu'avais-je à faire de m'occuper d'un étranger et de me mêler de ce qui ne me regardait pas ? C'est pourquoi j'ai été la cause d'une querelle. Et cela parce que tout est hypocrisie, dit-elle, en ouvrant et fermant machinalement l'ombrelle. Mais dans quel but ? Pour paraître meilleur aux autres, à moi-même, à Dieu, pour tromper tout le monde. Non, je ne retomberai plus là-dedans. Je préfère être mauvaise, ne pas mentir, ne pas tromper. Mais qui donc a trompé ? Dit Varinka sur un ton de reproche. Vous parlez comme si... Mais Kitty était dans un de ses accès de colère et n'en laissa pas achever. « Mais ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Vous êtes une perfection. Oui, je sais que vous êtes toutes des perfections, mais je suis mauvaise, moi. Je n'y peux rien. Et tout cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas été mauvaise. Tant pis, je resterai ce que je suis, mais je ne dissimulerai pas. Qu'ai-je à faire d'Anna Pavlovna ? Ils n'ont qu'à vivre comme ils l'entendent et je serai moi-même. Je ne puis me changer. Au reste, ce n'est pas cela. Qu'est-ce qui n'est pas cela ? Dit Varinka d'un air étonné. Moi, je ne puis vivre que par le cœur, tandis que vous autres ne vivez que par vos principes. Je vous ai aimé, tout simplement, et vous n'avez eu en vue que de me sauver, de me convertir. Oh, vous n'êtes pas juste, dit Varinka. Je ne parle pas pour les autres, je ne parle que pour moi. Kitty, viens ici, cria à ce moment la voix de la princesse. Montre tes coraux à papa. Kitty prit sur la table une boîte, la porta à sa mère d'un air digne, sans se réconcilier avec son ami.
« Mais qu'as-tu, pourquoi es-tu si rouge ?» demandèrent à la fois son père et sa mère.
« Rien, rien, je vais revenir. »
« Elle est encore là, que vais-je lui dire ?»«
Mon Dieu, qu'ai-je fait, qu'ai-je dit ? Pourquoi l'ai-je offensé ?» se dit-elle en s'arrêtant à la porte.
Varinka, son chapeau sur la tête, était assise près de la table, examinant les débris de son ombrelle que Kitty avait cassée. Elle leva la tête.
« Varinka, pardonnez-moi, murmura Kitty en s'approchant d'elle. Je ne sais plus ce que j'ai dit,
Vraiment, je n'avais pas l'intention de vous faire du chagrin, dit Varinka en souriant. La paix était faite. Mais l'arrivée de son père avait changé pour Kitty le monde dans lequel elle vivait. Sans renoncer à tout ce qu'elle y avait appris, elle s'avoua qu'elle se faisait illusion en croyant devenir telle qu'elle rêvait. Ce fut comme un réveil. Elle comprit qu'elle ne saurait, sans hypocrisie, se tenir à une si grande hauteur. Elle sentit en outre plus vivement le poids des malheurs, des maladies, des agonies qui l'entouraient, et trouva cruel de prolonger les efforts qu'elle faisait pour s'y intéresser. Elle éprouva le besoin de respirer un air vraiment pur et sain en Russie, à Yergouchovo, où Dolly et les enfants l'avaient précédée, ainsi que le lui apprenait une lettre qu'elle venait de recevoir. Mais son affection pour Varinka n'avait pas faibli. En partant, elle la supplia de venir les voir en Russie.
Ben, « Je viendrai quand vous serez mariés, » dit celle-ci.
« Je ne me marierai jamais. »«
Alors, je n'irai jamais. »«
Dans ce cas, je ne me marierai que pour cela. »«
N'oubliez pas votre promesse, » dit Kitty.
Les prévisions du docteur s'étaient réalisées. Kitty rentra en Russie guérie. Peut-être n'est-elle pas aussi gaie et insouciante qu'autrefois, mais le calme était revenu. Les douleurs du passé n'étaient plus qu'un souvenir.